Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute.
Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocat. Podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Isabelle Wickstein, une avocate dévouée et une réalisatrice passionnée. Isabelle a brillamment marqué le monde juridique tout en menant des initiatives contre l'antisémitisme et le racisme. Sa carrière, guidée par la solidarité et l'excellence, est un exemple de réussite équilibrée entre aspirations professionnelles et engagement personnel. Nous espérons que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Agathe Turis et Isabelle Wickstein.
Bonjour Isabelle Wickstein.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de participer à ce podcast. Moi, je suis particulièrement ravie de te recevoir aujourd'hui. J'ai entendu parler de toi il y a plusieurs années maintenant, puisque j'étais en master avec ton fils à la Sorbonne. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, c'est qu'il est très riche, très atypique, et que au-delà de ta casquette d'avocat, tu as aussi une casquette de réalisatrice de documentaires, il me semble une casquette d'écrivain. Aussi, j'ai vu qu'il y avait un petit livre.
Il y a un livre.
Donc je suis ravie que tu viennes nous parler de ce parcours aujourd'hui. Première question, si tu devais choisir aujourd'hui entre l'avocature et la réalisation, que choisirais-tu ?
Je ne peux pas répondre à cette question. Choisir, c'est renoncer. Et j'ai beaucoup de mal avec le renoncement en général. J'aurais peut-être ni l'un ni l'autre.
Encore de nouvelles idées.
C'est surtout que je pense que quand moi j'ai commencé mes études et que je suis devenue avocate, on avait tendance à faire le même métier pendant une durée très très longue et qu'aujourd'hui, depuis quelques années déjà, les jeunes avocats conçoivent le métier comme une étape vers autre chose. Pas toujours, mais ils font plusieurs métiers dans leur vie professionnelle et je trouve que ça, c'est très, très enrichissant. Et je dois dire que si demain, on proposait une autre activité professionnelle que je sois en capacité de faire, je serais ravie de changer. Mais je n'aurais pas envie de renoncer au film parce que le film, les films, j'ai commencé il y a beaucoup moins longtemps, il y a une douzaine d'années et j'ai encore envie d'en faire. Voilà, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'être avocat, mais ce n'est pas du tout la même durée de vie professionnelle. Et puis, il y a une activité, celle d'avocat dont je vis, et une autre dont j'aurais du mal à vivre parce que la vie de réalisateur, c'est une vie quand même assez difficile quand on ne fait pas beaucoup de films.
J'imagine. Et justement, comment tu en es arrivé là ? Comment tu t'es mis à la réalisation il y a 12 ans ? Donc, côté activité professionnelle, tu as associé ton propre cabinet One Avocat, c'est ça ?
Oui, ouais. Je suis cofondatrice et associée du cabinet One Avocat.
Donc, en propriété intellectuelle,
C'est un cabinet qui est quand même pluridisciplinaire et moi-même, j'ai une double formation parce que je suis avocate de droit des affaires au départ. D'accord. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation de propriété intellectuelle. Mais notre cabinet regroupe, c'est essentiellement un cabinet d'affaires où il y a du fiscal, du M&A, du contentieux, de la propriété intellectuelle, du droit social et un pôle plus restreint de droit immobilier.
Très bien. Et donc, toi, tu étais amenée à travailler avec des réalisateurs côté propriété intellectuelle ou pas ? Comment tu as mis un pied là-dedans ?
Alors, dans mon activité professionnelle, j'ai effectivement été mise en relation assez tôt avec des auteurs réalisateurs, mais je ne sais pas si c'est ça qui m'a amenée à devenir réalisatrice ou plutôt un travail que j'ai, enfin une initiative que j'ai montée en 2005 de lutte contre les préjugés en milieu scolaire, qui okay. consistait à aller dans les établissements publics, privés, Paris, banlieue, province, en binôme pour faire réagir les jeunes élèves sur la question de leurs propres préjugés et des préjugés dont ils étaient l'auteur. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, 14 ans en tout, et les dernières années...
Et en binôme avec
Alors, on était...
profession ?
En fait, ce n'était pas une question de profession, c'était une question d'origine.
Okay.
Le principe, c'était d'intervenir un juif, un arabe.
D'accord.
Et donc, le binôme, c'était moi et une personne d'origine musulmane qui intervenait à mes côtés dans des établissements scolaires, alors que ce soit du public ou du privé. On est intervenu dans des écoles juives, dans des écoles catholiques, comme je te disais, à Paris, en banlieue, ailleurs. Et en fait, le fait d'être en binôme avec des origines différentes et supposées opposées, ça nous permettait de faire réagir les jeunes qu'on avait en face de nous. Et de là est née l'idée, parce qu'à un moment donné, je l'ai fait avec un co-intervenant qui était réalisateur, et on a eu l'idée de filmer les interventions. Et c'est devenu un documentaire sur France Télévisions qui a plutôt bien marché. Ça, c'était en 2015. Alors, ceci dit, j'avais fait... autre chose avant, j'avais filmé des interviews de mon beau-père en 2011. À l'époque, ce n'était pas pour faire un film documentaire, mais c'est devenu un film documentaire que j'ai d'ailleurs présenté en avant-première hier et qui va être diffusé sur France Télévisions. Donc, c'est un peu le hasard des choses qui a fait que je me suis mise à la réalisation.
Très bien. Et les réactions que vous rencontriez dans les établissements scolaires où vous alliez justement pour avertir, Quelles étaient les réactions des jeunes sur cette lutte contre les préjugés, etc.
Bah, c'est des réactions très diverses. Ça dépend du lieu où on se trouve, de l'origine aussi des jeunes auxquels on fait face. Mais une des premières choses à faire, c'est de faire prendre conscience à ces jeunes de leurs propres préjugés. Et c'est pas toujours évident de leur faire reconnaître que eux-mêmes sont auteurs de préjugés à l'égard des autres et pas seulement des victimes de discrimination comme ils se vivent souvent. Donc, en tout cas, c'était très intéressant. En plus, on a filmé juste après les attentats Charlie avec des réactions assez fortes. Voilà, le film s'appelle Les Français, c'est les autres. D'ailleurs, il a été diffusé en 2015 sur France Télévisions. Ensuite, il a été diffusé en 2020 lors d'un hommage à Samuel Paty, toujours sur France Télévisions. Et il y a une semaine, non, d'ailleurs, c'est pas il y a une semaine, c'est dans une semaine, il est présenté à un festival.
En compétition enfin,
c'est... Non, c'est un festival de films documentaires sur des sujets de société. Et j'ai été étonnée de voir qu'il avait toujours une actualité, mais en tout cas...
En même temps, l'actualité, c'est...
Évidemment. Mais non, au moment où on m'a... De toute façon, ce sont des sujets qui reviennent sans arrêt. Non, ce que je veux dire, c'est bien sûr, c'est des sujets d'actualité, mais j'étais étonnée qu'on ait... ce film, il date de 2015, mais il est vrai que quand il a été rediffusé sur France Télévisions pour l'hommage à Samuel Paty, j'avais peur qu'il soit un peu trop ancien, et finalement... il a eu pas mal de succès et je me suis rendu compte qu'il était tout à fait d'actualité, que ce qu'on avait capté à l'époque demeurait toujours vrai.
Mmh. Ouais, malheureusement, oui, c'est un sujet qui persiste malgré les années qui passent.
C'est exact. Et c'est quelque chose... Alors là, avec ce qui se passe actuellement, suite... au pogrom du 7 octobre perpétré en Israël à l'égard des Juifs, on assiste d'une manière générale à un déferlement de haine antisémite dans le monde. Alors, je parle de ça, ça n'a pas un lien nécessairement direct avec le sujet que je viens d'aborder, qui est celui de mon documentaire sur les préjugés en général, parce que l'antisémitisme, il est quand même répandu partout. Mais c'était juste pour dire qu'effectivement, le sujet... ce sujet-là n'a pas disparu.
Mmh. Mais c'est bien de continuer à passer ce genre de documentaire aussi qui montre que il faudrait faire en sorte que ça puisse disparaître et qu'on abandonne tous un petit peu nos préjugés à cet égard. Suite à ce documentaire, du coup, en 2015, il me semble que vous en avez tourné un autre en 2020.
Oui, j'ai fait un film documentaire sur l'hôpital public.
Assez engagé.
Que j'ai tourné pendant au début du Covid, puisque c'était début avril 2020. Et j'ai eu la chance d'avoir l'autorisation de filmer dans un service de pneumologie, réanimation intensive à la Pitié-Salpêtrière. Et... j'ai essayé de montrer qui étaient ces hommes et ces femmes qui travaillent dans le plus grand hôpital d'Europe et dans ce service en particulier où il y a 200 soignants. Et je dois dire que c'était une expérience absolument extraordinaire parce qu'on nous a laissé tout voir, les réunions de direction, les réunions de crise, les rapports entre les différents soignants, le problème des masques... les différents métiers, le problème de l'organisation de l'hôpital, de la tarification des actes, enfin tout le fonctionnement en fait d'un hôpital public et diverses problématiques, et c'était absolument passionnant à faire.
Et pour tourner ce type de documentaire, tu as une équipe de combien de personnes? Comment ça se passe concrètement? Moi, j'y connais rien.
Alors, il y a des situations très diverses. Franchement, là, ça s'est passé de manière totalement atypique parce que, en temps normal, quand on fait un documentaire, il faut qu'on ait un sujet, il faut qu'on ait un producteur, il faut qu'on écrive, un développement. Ensuite, on fait du repérage et puis on trouve une chaîne, il faut le financer. Et c'est seulement après qu'on commence les tournages. Et une fois qu'on a fini les tournages, on fait du montage et on le montre à la chaîne, on le fait valider. Enfin bon, puis après, il y a de la post-prod. Enfin, il y a toute une série d'étapes. Et là, ça s'est passé de manière totalement inhabituelle parce que j'ai eu une autorisation, j'ai écrit un projet avec un co-réalisateur. On est allé le présenter à la PHP. Ils nous ont autorisé à tourner. Il a fallu tourner dès le lendemain. Et je n'avais pas encore de producteur, je n'avais pas encore de chaîne. Donc, j'ai commencé le tournage sans avoir ni producteur ni chaîne. Et ensuite, je me suis débrouillée pour le coproduire avec une petite société de production que j'ai montée. Et puis, j'ai trouvé France Télévisions avec mon coproducteur qui était Marie Drucker, qui nous a beaucoup aidés. Et là, je dirais qu'on a, entre guillemets, profité de la période de confinement des 6 semaines qui m'ont permis de tourner alors que le cabinet était fermé. C'est-à-dire que je continuais évidemment à travailler, mais ça me permettait quand même de passer les journées à l'hôpital pour filmer. Et j'avais un chef-op qui était mon co-réalisateur et quelqu'un pour prendre le son. Donc, c'est une équipe très réduite, plus un deuxième chef-op que j'ai pris parce qu'il y avait beaucoup de choses à filmer et qu'on avait un temps réduit. Et parce que être partout à la fois.
Du coup, au départ, lorsque tu avais le projet de ce documentaire, il n'y avait pas du tout le Covid. Et en fait, finalement, le tournage a été en plein confinement, quoi.
Alors, j'ai accéléré le tournage. J'avais le projet de faire un film sur l'hôpital public. Et quand le Covid est arrivé, les choses se sont précipitées. Et comme j'ai eu cette autorisation, j'ai foncé. Voilà.
Et donc, combien de temps de tournage ?
Il y a eu une première période de 6 semaines. Après, on est retourné au cabinet. Et ensuite, j'ai retourné quelques semaines plus tard, ça devait être en juillet 2020, quand il y a eu notamment toute la période des grèves et du Ségur de la santé, où j'ai filmé ce qui se passait au moment du déconfinement.
Très bien. Et donc, ce documentaire, il a été diffusé aussi sur France TV ?
Il a été diffusé sur France 5 en prime en novembre 2020, je crois.
Donc, discrimination en milieu scolaire, mettre en lumière les soignants, comme je disais avant, ce sont des sujets quand même assez engagés. D'où te vient cette envie de, je sais pas si dénoncer est le bon terme, mais en tout cas de mettre ces sujets-là en avant et cet engagement principalement.
Ben, je crois que j'ai toujours été dans l'engagement depuis que je suis jeune. Mes parents l'étaient. J'ai été élevée un peu dans un milieu de gens engagés et mes parents étaient médecins. Je me souviens que mon père soignait des gens dans un dispensaire, avait une carrière à la fois de chirurgien dans un hôpital à Paris et puis consacrait une partie de son temps à soigner des gens plus démunis, plus pauvres. Ma mère, c'était la même chose. Voilà, je pourrais pas dire, c'est aussi peut-être lié au métier qui est de défendre des gens. En tout cas, ces initiatives. Alors, le film sur l'hôpital, c'est parce que je suis quand même issue d'un milieu très médical. Je suis mariée à un médecin de l'assistance publique, mes beaux-parents étaient médecins, donc c'est un milieu que je connais un peu et qui me touche particulièrement, surtout en France, avec un système qui est extrêmement favorable aux patients. Et puis, la question des préjugés, cette initiative, je l'ai montée avec d'autres gens. Hein. On s'est regroupés un jour entre juifs et musulmans. On a créé un groupe qui s'appelait le groupe informel. Il y avait d'ailleurs des gens qui étaient ni juifs ni musulmans. Et on a commencé à militer ensemble sur le thème selon lequel on pouvait être français, juif, arabe, être attaché à nos propres communautés et en même temps avoir un socle républicain commun, très fort, et qu'il fallait absolument préserver ce socle.
Il existe encore ce groupe ?
Alors, de toute façon, comme son nom l'indiquait, ce groupe est informel, donc il est à la fois informel et multiforme. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de parti. Et les gens de ce groupe, ce sont encore des gens que je vois en grande partie, que je fréquente, et qui sont toujours animés des mêmes préoccupations et qui partagent des combats communs. Donc oui, on peut dire qu'il existe toujours, même si on ne se réunit plus comme on le faisait il y a presque une vingtaine d'années. Parce que de ce groupe est née l'initiative d'intervenir en binôme dans les écoles. Mais en pratique, c'était moi et une autre intervenante pendant un certain temps, et ensuite moi et un autre intervenant. Et de là est né le film qui s'appelle « Les Françaises, c'est les autres » sur la question des préjugés en milieu scolaire.
Très bien. Et tu évoquais tout à l'heure le dernier documentaire en date dont tu as fait l'avant-première hier soir. Ouais. Merci beaucoup du coup d'être venu en podcast aujourd'hui.
Mais, surtout que c'était un grand, grand moment d'émotion. Bah, j'ai fait un documentaire qui s'appelle La Disteg, un parcours juif, une histoire française. C'est un portrait de mon beau-père qui est décédé en 2021, qui a eu une destinée absolument extraordinaire, un parcours incroyable. Et je voulais parler de son parcours, de sa double fidélité au judaïsme et à la France. Et c'est au départ une demande qui m'avait été faite par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'Alliance israélite universelle et le CRIF, qui voulait rendre hommage à cet homme extraordinaire. Et on avait beaucoup d'archives. Il avait d'ailleurs été filmé par Spielberg, qui, pour sa fondation, a filmé quelques centaines de personnes dans le monde. Et en travaillant sur ce sujet pendant un an et huit mois, j'ai fini par faire 52 minutes pour France Télévisions, et que je coproduis avec Ciné TV, Fabienne Servan-Schreiber, qui est une merveilleuse productrice, et Fatma Darouni, qui est aussi productrice. Grâce à elle, j'ai réussi à faire ce projet. Voilà, l'avant-première a eu hier et il va être diffusé, je ne sais pas quand, sur France Télévisions aussi.
Ok, voilà. Ah, bravo. Mais du coup, oui, là, j'imagine que c'était encore une autre dimension, quoi, quelque chose aussi intime, important.
Oui, très fort et je pense très important et qui résonne beaucoup aujourd'hui compte tenu des événements.
Très bien. C'est assez impressionnant tout ça. Et du coup, moi, surtout, ce qui m'impressionne, c'est comment tu fais pour gérer à côté ta carrière d'avocat, ton cabinet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours côté avocat, comment ça s'est construit? Est-ce que tu as toujours voulu être avocat?
Alors, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, après mon bac, je me suis inscrite en hippocagne, en médecine et en droit en même temps. Et j'ai commencé par aller en hippocagne. J'ai fait peut-être un mois, puis en fac de médecine, j'ai dû faire un mois. Puis la fac de droit commençait plus tard que toutes les autres. Donc, je suis restée en droit. J'ai fait une année de droit. L'année d'après, j'ai eu un petit regret. Je me suis dit, mais non, finalement, j'aurais dû être médecin. Donc, je me suis réinscrite en médecine, mais je n'y suis pas allée. Et j'ai continué mes études de droit.
Et quand même un côté touche-à-tout bien ancré dès le départ.
C'est surtout un côté, je me pose plein de questions et j'hésite.
Ouais, bah, voilà. Curieuse, donc, du coup, du mal à choisir.
Et puis après, j'ai passé, pendant mes études de droit, j'ai postulé parce qu'il y avait une annonce pour faire partie d'un programme d'échange entre une université américaine et la fac, et j'ai été prise. Alors, j'ai été passée huit mois aux États-Unis, à New York, dans un établissement. J'étais inscrite en MBA, donc c'était City University of New York. Voilà, j'ai fait une année de MBA quasiment, mais comme je ne voulais pas perdre un an en France, je m'étais j'étais quand même inscrite en troisième année de droit et je suis rentrée pour passer mes examens en avril. Et puis, en quatrième année, je voulais passer le CRFPA dans la foulée, donc je suis restée. J'hésitais beaucoup parce que j'avais la possibilité de rester vivre aux États-Unis et j'avais été admise à NYU, mais je n'avais pas de bourse. Voilà, j'avais un petit ami français, je voulais rentrer à Paris, je suis restée, j'ai passé le CRFPA, ensuite le CAPA, et je suis devenue avocate. Et les deux premières années, j'étais en collaboration, je faisais aussi, je travaillais chez un avocat en conseil en parallèle, parce que ça m'intéressait d'apprendre la technique des mémoires, devant la Cour de cassation. Et puis, au bout de 2 ans, c'est vraiment le hasard des choses. Je suis devenue avocate d'un syndicat d'artistes-interprètes.
D'accord.
Et j'ai commencé à avoir beaucoup de dossiers dans le domaine de la musique et de la danse, aussi dans l'édition littéraire. Et puis, je me suis lancée avec... J'ai commencé à travailler, à m'installer fait.
À ton compte.
À mon compte, dans les locaux de mon ancien patron, qui me permettait d'utiliser le bureau moyennant. Je travaillais quand même, il fallait que je prenne en charge un certain nombre de dossiers pour lui. Et ça se passait très bien. Et puis voilà, j'ai commencé à développer un petit peu. Et puis après, j'ai eu ma première collaboratrice. Et puis ensuite, le cabinet a grossi par étapes.
T'avais une manière vision lentement. Un peu ou non, ça s'est fait vraiment...
J'avais pas de vision.
Au fur et à mesure. Déjà, tu n'as pas donné ton nom à ton cabinet. Tu l'as appelé... Enfin, One Advocate, c'était dès le départ ou...
Non, il avait... Non, il n'avait pas ce nom-là au départ. Il avait mon nom. Après, je me suis associée avec un ami qui avait fait tout son parcours universitaire avec moi, Raphaël Nakache, avec lequel je suis toujours associée. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont rentrées au fur et à mesure et on est devenus... un cabinet plus important avec plusieurs associés, des collaborateurs. Et moi, aujourd'hui, mon activité, elle couvre 4 petits départements où mon équipe est regroupée, un département contentieux, un département propriété intellectuelle, un département M&A, un département droit social.
Ah oui, donc assez pluridisciplinaire, en effet.
Voilà. Et puis, j'ai des associés. Il y a une associée qui ne fait que du droit social, qui est Nathalie Attias. Un associé qui fait que du droit fiscal et du corporate, qui est Hervé Oliel. J'ai Raphaël Nakache aussi comme associé qui fait du contentieux. On a un bureau à Genève avec Ludovic Doutrelot.
Ah, okay.
Qui anime le One Genève et qui lui fait plutôt du M&A et puis nos équipes et si on additionne tout le monde, ça fait une petite trentaine de personnes.
Pas mal.
Et
comment on gère un cabinet d'une trentaine de personnes?
Alors c'est vrai que c'est compliqué de faire plusieurs activités en même temps. Alors, moi, mon activité à temps plein, je dirais presque 150% de mon temps, c'est quand même avocat. Je suis avocat, je développe mes activités, je chapeaute ces départements, je travaille sur ces différentes matières, ce qui est déjà assez compliqué d'être... sur plusieurs créneaux à la fois, ça suppose de continuer à se documenter, d'être... Bon, maintenant, je suis très bien entourée de collaborateurs qui sont dans l'opérationnel et qui sont d'un très bon niveau et qui travaillent très bien et qui m'aident beaucoup. Mais et donc l'activité de réalisatrice, j'ai entre mon premier film qui a été diffusé sur France Télévisions, c'était 2015. Bon, après, j'ai fait un petit 26 minutes pour la Fondation Jean Jaurès et on l'a diffusé en salle de cinéma une fois pour un événement. C'était en 2018, celui sur l'hôpital 2020 et celui que je viens de terminer, il a démarré en 2022. Donc, il s'est passé du temps quand même entre les films. Et cette activité de réalisatrice, bon, ben, je la fais... Oui, je la fais...
L'énergie, quand même.
Quand j'y arrive. Oui, il faut de l'énergie. Parce que le métier d'avocat, c'est un métier qui est très, très lourd, en fait. C'est un métier qui est très prenant.
Tu trouves que le métier a changé ?
Ah oui, le métier a considérablement changé, oui.
Et c'est plus ou moins lourd ?
C'est différent. D'abord, on n'exerce pas ce métier de la même manière à différentes époques de sa vie. Aujourd'hui, bah d'abord, il y a beaucoup plus d'avocats. Donc, je trouve que la compétition, elle est plus rude. Ensuite, l'intelligence artificielle, je pense, va révolutionner ce métier.
Tu l'utilises, toi, déjà ?
Oui, j'utilise l'intelligence artificielle. C'est un sujet aussi qui m'intéresse parce qu'on est beaucoup consulté sur ces questions. Il n'y a pas de temps mort. Les gens attendent de toi que tu sois disponible 24/24. Tu reçois 300 mails par jour. L'information, les questions qui te sont posées, elles t'arrivent par WhatsApp, par SMS, il y a tellement de canaux de communication qu'en fait tu es multi-sollicité et on t'envoie des notes vocales tout le temps, donc il ne faut pas que tu loupes un truc, qu'il faut que tu répondes, que tu sois tout le temps efficace, les gens veulent toujours aller vite. Et on a quand même un problème de responsabilité, c'est-à-dire que nous, on donne des avis, on engage notre responsabilité, on est, même quand c'est des sujets qu'on connaît, il y a forcément une évolution législative, jurisprudentielle, il faut se tenir au courant, il faut avoir les bons réflexes. Je trouve que, mais ça c'est la société d'aujourd'hui dans tout son ensemble, on ne te laisse pas le temps de réfléchir et de te poser. Et le droit, c'est quand même une matière complexe où on a besoin de se poser et de réfléchir. Parce que si on veut bien conseiller un client, il faut qu'on pèse différentes options, il faut qu'on anticipe les choses. Ce n'est pas juste une réponse ponctuelle tout de suite, il faut qu'on réfléchisse aux étapes suivantes, on analyse les risques. Alors, il y a des questions qui sont très simples, évidemment, mais je trouve que souvent, les sujets sont emboîtés les uns dans les autres et les problématiques sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air.
Oui, et de la part des clients, il y a une tendance à vouloir maintenant privilégier la rapidité versus peut-être, enfin, au détriment peut-être parfois de la qualité, entre guillemets, non pas que tu donnes des mauvais conseils, c'est pas du tout mon propos, mais c'est vrai qu'à force de vouloir aller vite tout le temps, plus vite, moins cher. Bah...
c'est tout à fait juste. Je me souviens très très bien d'un déjeuner que j'avais eu avec un client qui était un très gros client, qui m'expliquait, la directrice juridique d'un client qui disait, ben voilà, nous, on attend trois niveaux de service. Il y en a un, c'est faut répondre tout de suite et c'est pas grave si c'est un peu survolé. Un niveau un peu plus intermédiaire, un peu plus approfondi, mais moyen. Et puis, un niveau où là, on peut donner de l'excellence. Et ça m'avait beaucoup surprise parce que je me disais, logiquement, un juriste, il doit demander à un avocat le meilleur,
de viser l'excellence, tout le temps, quoi.
L'excellence comme étant le niveau de base, quoi. Mais c'est pas toujours comme ça que le conçoivent les clients. Pas toujours.
Et tout à l'heure, tu parlais de concurrence accrue avec un nombre croissant d'avocats. Et tu disais que tu continuais à développer ton activité, etc. Comment tu t'y prends pour développer ton activité ?
Ben, s'il y avait une recette pour savoir comment développer son activité, je serais absolument ravie de la connaître il n'y a pas de règle. C'est une combinaison de plein de choses différentes. Les dossiers qu'on a traités, les succès qu'on a pu avoir, les rencontres qu'on a pu faire, le réseau, des initiatives qu'on prend, de la visibilité sur certains dossiers. C'est une combinaison de tous ces facteurs et on ne sait jamais comment ni quand ça va arriver.
Je suppose que ta double activité, on va dire, tes deux activités se nourrissent un peu l'une et l'autre, peut-être aussi.
Ah non, pas du tout, non. Non, d'ailleurs, moi, je garde une grande étanchéité parce que j'ai toujours eu le sentiment, à tort d'ailleurs, que les clients pouvaient se dire que si je faisais des films, je n'avais pas le temps de traiter leur dossier. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que je mets en avant. Et les clients, quand je fais un travail de réalisateur, c'est vraiment... un travail de réalisation je pense plus à mon travail d'avocat, je suis pas en train de donner des conseils, je suis pas en train de chercher des clients, je suis pas
mais
en train
sûr, en
de me
de
mettre
réseau,
en avant
peut peut-être
pas non parce que tu les gens te voient pour la partie de toi qui n'est pas celle d'avocat et hier par exemple à l'avant-première de mon film, où il y avait 430 personnes. Dans ces 430 personnes, il y avait des amis, de la famille, des gens de l'équipe. Et puis, il y avait des clients aussi, quelques-uns.
Okay. Enfin,
des gens qui ont été des clients, qui sont devenus des amis ou des clients, tout simplement, parce qu'ils avaient un lien avec cette activité. Et je pense que... là, ils m'ont vue, pas comme avocate, et... c'est pas en me voyant hier et en voyant le travail que j'ai fait qu'ils vont se dire tiens je vais lui amener des dossiers. Donc ça se nourrit pas vraiment l'un de l'autre, de la même manière que quand je fais mon activité d'avocate je ne me nourris pas de mes affaires pour me dire, enfin des affaires que je traite pour me dire tiens ça serait un bon sujet de documentaire. Alors évidemment j'aurais adoré faire une série comme avocat et associé, ça oui j'ai souvent pensé.
Il n'est pas trop tard.
The Good Wife ou des choses comme ça qui sont ou Suits ou c'est-à-dire
il y a une série française là qui est sortie récemment sur une avocate. Ouais. Je l'ai pas regardée.
Alors j'ai eu du mal à rentrer dedans en fait.
J'ai pas regardé
il faut
encore.
Que je reprenne mais
c'est vrai que sinon c'est très anglo-saxon et du coup c'est pas une vision très réaliste de l'avocat en tout cas français dans ces séries là.
Absolument. Mais Avocat et Associé était une bonne série. Il y en a eu une autre dont j'ai oublié le nom, que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Bon, elles ne sont pas du tout réalistes, hein, ces séries. Mais ce n'est pas grave.
Ça nourrit un fantasme sur le métier d'avocat.
C'est comme la série 10%. J'en ai parlé souvent avec des agents, parce que je travaille avec pas mal d'agents et qui disent bah, 10% c'est fantastique, mais ce n'est que 10% de la réalité. Mais puis les séries, elles forcent beaucoup le trait, elles sont très caricaturales sur plein de choses, mais c'est pour ça que ça marche aussi et que c'est bien.
Oui,
mais voilà, tout ça pour dire que les deux métiers sont assez séparés. Ce qui rend les choses d'ailleurs pas toujours faciles, parce que faut vraiment tracer une ligne entre les deux. Et quand on est dans l'un, être à fond dans l'un. Quand on est dans l'autre, être à fond dans l'autre. Mais comme je te l'ai dit, moi, mon métier aujourd'hui, c'est vraiment avocate. Donc, je suis fière de pouvoir me définir. Je ne sais pas si les autres me voient comme ça, mais dans le métier audiovisuel, je veux dire, mais je suis fière de me considérer comme réalisatrice. Je dis simplement que ma vie quotidienne et ce qui me permet de vivre aussi, c'est mon métier d'avocate. Et que je continue de développer. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est quand même de développer cette activité d'avocate parce que j'aime ce métier, que je pense que je ne suis pas du tout arrivée au bout et que je veux continuer à découvrir aussi de nouveaux horizons, de nouveaux développements.
Donc, développer de nouvelles activités, par exemple ?
Non, mais de nouveaux secteurs. Tu vois, je travaille dans par exemple, pour les fusions-acquisitions, j'en fais beaucoup dans le secteur des médias, des industries culturelles. Je le fais aussi dans le secteur de la santé, mais je pourrais le faire dans d'autres secteurs. Donc des choses un peu plus je développerai pas d'autres domaines parce que déjà c'est beaucoup et je trouve qu'on peut pas être spécialiste de tout et voilà et je suis pas un avocat, je me considère pas comme un avocat généraliste.
Tu prêches une convertie.
et que il faut faire que ce qu'on sait faire, parce que si on prend des dossiers dans des domaines qu'on ne connaît pas ou ne maîtrise pas, c'est vraiment un risque énorme et c'est une source de stress. Donc, comme on en a déjà beaucoup dans ce métier, il ne faut pas en ajouter. non, mais je veux continuer à développer le volume de dossiers, trouver de nouveaux dossiers, de nouveaux clients.
Ton temps aujourd'hui se partage comment entre le développement et la production
La production...
Le traitement des dossiers, quoi.
La production, oui.
Pardon.
La production représente, je dirais, 80% quand même. Hein.
OK.
Ouais.
Ouais, donc tu produis... Encore beaucoup. Il y a pas mal d'associés où ça va
être... Non, mais j'exagère parce que c'est peut-être du 70-30 plutôt. Mais j'ai l'impression quand même de produire beaucoup. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par produire ? Si produire, c'est dans un contentieux rédiger les conclusions de A à Z, non. En tant qu'associée, j'ai des équipes de collaborateurs, mais je suis quand même très impliquée sur la stratégie, je revois, je plaide souvent avec les collaborateurs. Après, c'est vraiment du cas par cas. Donc, si produire, c'est ça, la proportion est sans doute inférieure. Mais moi, je fais beaucoup de conseils, je ne rédige pas évidemment tous les actes, mais je vois tout, je traite tout, donc ça reste de la production et ça représente une partie quand même assez importante.
Et ça, c'est important pour toi de garder cette partie production en priorité
Pas nécessairement. Je pense que là, tu mets le doigt sur vraiment quelque chose de difficile. Je trouve que c'est parfois difficile de trouver un juste équilibre quand on est associé, qu'on a déjà beaucoup d'années d'ancienneté, qu'on a. Moi, je fais confiance à mes collaborateurs. La production, ils la font très bien. En tout cas, si j'interviens dans un dossier, que je fais un rendez-vous avec un client, que je vais plaider un dossier ou que je négocie quelque chose, je ne peux pas le faire en arrivant comme une fleur à la dernière minute et les autres ont fait le travail et puis moi, je survole. Ça, ce n'est pas possible. Je suis obligée. D'abord, c'est trop angoissant. Et puis, pour avoir les réflexes, la répartie, il faut quand même être plongé dans le dossier. Donc, le bon équilibre, c'est d'avoir une bonne équipe qui te prépare les choses, trouver le temps quand même de s'y plonger pour, grâce à notre expérience, pouvoir utiliser ce travail préparatoire et se l'approprier au sens le connaître et pouvoir ensuite négocier en étant tout à fait au fait du dossier. Tout ça prend quand même du temps. Donc, après, quand tu n'interviens pas dans les dossiers, c'est-à-dire, moi, il y a des dossiers où je laisse évidemment mes collaborateurs traiter le dossier, être en contact avec les clients, se débrouiller seuls parce que je leur fais confiance et qu'ils ont largement la capacité de le faire. Mais il y a quand même encore beaucoup de dossiers que je suis, et dans ceux-là, le juste équilibre entre intervenir et faire le travail préparatoire n'est pas toujours évident.
Et tu me parles de tes collaborateurs, tu me dis j'ai une bonne équipe, etc. Qu'est-ce que tu penses de la jeune génération d'avocats, on va dire, justement ? Est-ce que déjà, est-ce que vous arrivez facilement à recruter au cabinet ? Enfin, nous, on a beaucoup de sujets là-dessus avec les avocats avec lesquels on travaille, avec les cabinets avec lesquels on travaille. Comment ça se passe, toi ?
Alors, par chance, je n'ai pas été amenée à recruter depuis un petit moment. Alors, par chance...
Ce qui est très bon signe.
Alors, c'est bon signe ou pas bon signe ? Parce que, en fait, la chance, je m'explique, c'est que l'équipe soit stable.
Oui, c'est ça qui est
Par contre,
signe.
Je pourrais me dire, eh ben, voilà, si je grossissais assez vite, eh ben, j'aurais besoin d'en recruter plus de gens. Donc, ça dépend de quel point de vue on se place. Quand j'entends que c'est compliqué de recruter, qu'on ne trouve pas, qu'il y a quand même beaucoup d'avocats jeunes qui quittent la profession, ça oui, je l'entends beaucoup. Donc, et je sais que quand moi j'ai eu à recruter, ce n'était pas facile. Donc, après, ce que je pense de la jeune génération... Alors, il y a plusieurs jeunes générations. Il y a ceux qui arrivent sur le marché aujourd'hui, qui ont 25 ans. Il y a ceux qui ont 30-35. Je crois que ce n'est pas la même chose. Je pense que d'une manière vraiment générale, parce qu'on ne peut pas limiter ça au secteur des avocats, la jeune génération sur le marché du travail est très différente de ce que nous étions, nous, quand on avait 25 ans. C'est-à-dire que nous, on était un peu workaholic, on était un peu, on fait ce métier, on se jette à corps perdu et on va le faire toute notre vie. Enfin, je généralise sans doute trop, mais je le vois en observant mes enfants, par exemple, la qualité de la vie personnelle par rapport à la vie professionnelle est très importante. Le rapport entre les deux est vraiment pesé. Et je trouve que c'est bien. C'est vrai que... Et c'est difficile d'avoir cet équilibre.
Et parce que toi, typiquement, tu trouves que lorsque tu as débuté ta carrière... Potentiellement, justement, le travail a pris trop le dessus sur la qualité de la vie personnelle.
Bah, moi, je trouve que moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'arrive régulièrement et qui m'agace en fait, c'est quand je vois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et qu'on parle, on aborde la vie professionnelle, la question est toujours la même, c'est est-ce que tu travailles toujours autant ? Et je me rends compte que, alors, je sais pas si c'est les avocats ou si c'est comme ça que je suis, et je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens pensent que je travaille trop ? Sans doute parce que la réalité, c'est que je travaille trop. Alors, est-ce que j'ai sacrifié ma vie personnelle ? Non, parce que j'ai eu une chance inouïe de rencontrer l'homme de ma vie, de l'épouser, d'être toujours mariée, de me remarier avec lui, même si on était toujours ensemble.
Je ne savais pas.
Donc, on s'est mariés 4 fois, 2 fois à la mairie, 2 fois à la synagogue.
Allez, histoire de faire la fiesta.
Exactement, c'était juste avant le Covid, on a décidé. Alors, quand je dis remarier, c'est un renouvellement de vœux à la mairie. Mais c'est une cérémonie... républicaine, où on refait tout pareil, et pareil à la synagogue, quasiment. Et puis, j'ai pu quand même faire 4 enfants, et ça, c'est le grand bonheur de ma vie. À vrai dire, c'est la seule chose qui compte vraiment, Mais je dis quand même un mais, parce que le métier d'avocat ne rend pas facile. Enfin, c'est difficile de faire 4 enfants, d'être installé, d'essayer de développer un cabinet. Et alors que ben, quand on est installé, qu'on est son propre patron, on ne peut pas prendre un congé mat, c'est difficile sur une longue période. Et alors qu'on devrait pouvoir le faire. Mais c'est évidemment techniquement possible et on a des indemnités de la part de l'ordre. Mais pour te dire quand même que moi, les 3 premières fois, je ne savais même pas que...
qu'il y avait des indemnités.
Qu'il y avait des indemnités, je ne les ai jamais réclamées.
Il y a peu de communication là-dessus.
Ou tellement, moi, je suis dans l'idée que ben, je ne peux pas arrêter mon activité parce que sinon, je vais tout perdre, parce qu'il faut que je mène le tout de front.
Oui, c'est ça. Il y a la question des indemnités, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait des dossiers le temps où on s'arrête, quoi.
Donc, je n'ai pas sacrifié ma vie personnelle, loin s'en faut. Et ça, j'en suis très heureuse. Mais j'aurais certainement pu passer plus de temps avec mes enfants quand ils étaient petits. Et puis,
oui, mais tu as aussi réalisé plein d'autres choses qui épanouissent la famille autrement.
En tout cas, j'espère que la famille est épanouie. Mais je trouve que pour les femmes et les jeunes femmes, eh ben, c'est pas si facile que ça d'arriver à mener cette profession qui est quand même très chronophage et une vie personnelle riche.
Et ça m'intéresse la manière justement dont, si ça te dérange pas d'en parler, dont tu as géré les moments des grossesses et des accouchements, justement, parce que c'est des sujets que j'ai pas mal avec des avocates indépendantes que j'accompagne et qui sont enceintes et qui sont très angoissées justement à l'idée de devoir mettre en pause leur activité. Est-ce que du coup, tu avais quasi pas mis en pause? Est-ce que tu t'es dit je mets en pause, mais vraiment en pause pendant 2 mois et puis comme ça, je repartirai de plus belle? Comment tu as géré ça?
Ah non, moi, j'ai jamais pu mettre en pause. Ouais. Moi, j'étais angoissée comme ces jeunes femmes. J'avais l'impression, je cachais le fait que j'étais enceinte à mes clients.
Ouais, ben c'est une discussion que j'ai eue aujourd'hui.
Ah ben oui. Et un jour, j'ai eu un psy qui m'a dit quelque chose qui m'a fait ouvrir les yeux. Il m'a dit, vous vous trompez complètement. Si vos clients voient que vous êtes enceinte jusqu'au cou, et que vous gérez leur dossier, et que vous êtes... Ça rassure, au contraire.
Ouais.
C'est qu'ils se disent, ben, elle assure, elle sait à la fois être enceinte, porter un bébé, et s'occuper de moi. Et en fait, c'est complètement l'opposé.
Ils vont être encore plus admiratifs, quoi.
Et puis, confiant ouais, dans l'idée qu'on est quand même capable de faire 2 choses à la fois. Et je me suis dit, bah oui, il a raison, c'était tellement évident. Alors, est-ce que je me suis mise à voir les choses différemment? Oui, sans doute. Bah, ma dernière grossesse, je l'ai plus... je ne vais pas dire assumer, parce que j'ai assumé vraiment toutes mes grossesses. J'étais très heureuse d'être enceinte. Mais je veux dire qu'au début, c'est vrai que je le disais pas, jusqu'à ce que ça se voit vraiment. Parce que je me disais, je vais perdre tous mes clients, ils vont voir un gros ballon, ils vont se dire, elle ne pourra plus s'occuper de moi. Et en fait, c'est une vision complètement idiote, je trouve. Mais c'est une vraie angoisse en même temps. Et je pense qu'il y a des femmes qui ressentent encore ça. Et c'est très différent quand on est collaboratrice et quand on est installée. Parce que quand on est collaboratrice, on a quand même une protection.
Ah oui.
On touche sa rétrocession d'honoraires. On sait que on va retrouver ses dossiers, il y a quelqu'un qui s'en charge pendant qu'on n'est pas là, on a un statut à ce moment-là quasiment de salarié.
Exactement ce que j'allais dire.
Quand on est installé, on ne peut pas disparaître. C'est ça le problème. Quand tu montes un cabinet, que tu le gères, Bah, tu peux pas disparaître, tu peux pas, tu peux juste pas. Tu peux pas dire je pars au bout du monde pendant 3 mois, par exemple, même c'est pas, et je reviens.
Enfin, il faut avoir des bons associés, des bons collabs, mais ce qui n'est pas le cas au départ, quoi. Forcément.
Oui.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, c'est intéressant qu'on en parle, parce que c'est une discussion que j'ai eue cet après-midi avec une avocate que j'accompagne. Et voilà, et qui pareil ne le dit pas à ses clients. Et je disais qu'elle avait tout intérêt à le dire. Si comme ça, il y a un petit mois de un peu pause, ou en tout cas elle est un peu moins réactive, bah, déjà ils seront quand même plus compréhensifs sur le pourquoi du comment, et ils seront d'autant plus confiants qu'elle arrive à gérer tout le reste du temps, quoi. Enfin,
alors ensuite, ça dépend si elle fait du conseil ou du contentieux. Je pense que le Covid nous a beaucoup aidé avec le télétravail à faire comprendre à tout le monde qu'on pouvait être aussi efficace quand on travaillait pas, on n'était pas présent physiquement. Maintenant, toutes les réunions se font en Zoom, en Teams. On n'est pas obligé d'être en présentiel partout. Et loin de là, c'est même tout à fait l'opposé. Donc, je pense que c'est plus facile de... Alors, moi, je dis ça en supposant qu'une femme qui va accoucher, elle va continuer à travailler tout en s'occupant de son bébé. Mmh. Mais si on veut faire une vraie coupure de plusieurs mois, c'est vrai que c'est difficile. Quand on est, je pense, une jeune avocate et installée depuis peu longtemps, ou même un peu plus longtemps, je pense que c'est assez difficile. Et pourtant, on doit pouvoir y arriver, parce que c'est injuste que les avocates n'aient pas la possibilité de mener, comme elles l'entendent, une carrière professionnelle et personnelle en ayant des enfants.
Oui, bien sûr. Ensuite, c'est quand même aussi le propre de tout indépendant, au-delà des avocats.
Complètement.
Et c'est vrai que c'est là où, pour le coup... s'il n'y avait que ça, cela dit, mais il y a encore une grande inégalité. Enfin, forcément, homme-femme, là, de fait, on n'est pas dans la même situation, quoi. Mais finalement, un médecin qui s'arrête, ça peut être problématique aussi. Alors, sauf qu'il n'y a quand même pas assez de médecins, donc globalement, un médecin aura toujours de la patientèle, mais bon, c'est un peu embêtant. Enfin, dès qu'on est à son compte, en fait, c'est vrai que... Parce que admettons qu'il y ait une indemnité peut-être un peu plus élevée que celle actuelle, que ce soit par l'ordre, par je ne sais quoi.
Oui, ça ne règle pas le problème.
Ça ne règle pas le problème.
Non, absolument.
Mmh. Donc, je ne sais pas ce qu'il faudrait mettre en place.
Je ne sais pas non plus.
On va y réfléchir.
Sans doute des structures aussi pour prendre en charge plus de crèches, plus d'aides. Bon, après, ça ne règle pas le problème de vouloir s'arrêter et de se consacrer.
Il n'y a pas des systèmes chez les avocats, c'est vrai que je ne sais pas ça, comme les tontines chez les médecins, où du coup, il y aurait une sorte de groupe d'entraide, où potentiellement, on refile un peu ses dossiers. Ça n'existe pas, ça ?
Bah, ce qui existe, c'est quand on a des associés, que les associés... suivre les dossiers à ta place quand tu t'accouches, par exemple. Mais encore faut-il que tes associés fassent la même chose que toi, tu vois, et les mêmes spécialités. Souvent, quand tu t'associes avec des gens, c'est pour qu'il y ait une certaine différenciation.
Complémentarité
plutôt. Donc, non, c'est un sujet. Mais même encore maintenant, moi, j'ai un enfant qui est relativement jeune, parce qu'il a 8 ans et demi. Donc, c'est encore un petit garçon. Il faut faire les devoirs. Tu vois, là, par exemple, ce soir, je vais au théâtre. Donc, il va falloir que je cours d'ici, que j'aille à la maison, que je fasse faire les devoirs, que je parte.
Planning.
Ça, c'est la vie des femmes en général. je pourrais décider de ne pas aller au théâtre. Faut jongler.
Mais tu as plutôt fait permanence. Le choix de vivre... à fond.
On peut dire ça.
très bien. Moi, je suis admirative.
Non, il n'y a pas de quoi. Il y a plein de gens qui font, plein de femmes en particulier, qui font dans ce métier plusieurs choses, plusieurs carrières, qui mènent plein de choses de front. Et bon, c'est enrichissant, mais c'est... Ouais, faut beaucoup d'énergie.
Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais te laisser du coup aller faire les devoirs.
Merci à toi. J'y vais de ce pas.
Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.